بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir, ce mardi soir, de nous réunir après la salat al-isha accomplie en congrégation pour parler de la religion d'Allah Azza wa Jal. On a commencé à expliquer tout à l'heure avant d'enregistrer comment Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces gens qui s'assoient dans une mosquée, dans une médersa, dans n'importe quel lieu, uniquement, ils se réunissent uniquement pour parler d'Allah, pour parler des paroles d'Allah, du Coran, pour parler de des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire revivre dans les cœurs la muhabba, l'attachement pour Allah et son prophète. Une personne peut faire ses salats, peut faire le ramadan, peut faire donner la zakat, faire le hajj, sans éprouver d'amour pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un rythme de vie, un rythme de vie spirituel, plutôt que de dire un rythme de vie spirituel, que nous finissons par pratiquer les bonnes actions uniquement par habitude. C'est une tradition. Papa le faisait, grand-père le faisait, dada, nana le faisait, tonton, tout le monde vient à masjid, je viens à masjid. Depuis tant petit, comme il dit en créole, depuis tant petit, mais tu viens à masjid. Ben voilà, sans se poser des questions. Et ça, c'est grave, ça. C'est pas un péché. Quand je dis grave, c'est pas un péché. Mais je veux dire grave, c'est lourd en conséquence. Ça veut dire que nous ne savons pas où puiser l'énergie. Si quand un mu'min se prosterne en faisant la salat, dans sa prosternation, il pense qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que c'est quoi le programme du week-end, demain j'ai cours, j'ai tel examen, j'ai telle chose. C'est-à-dire, à aucun moment de ses ibadas, il pense à son Seigneur. Ça, c'est un gros problème. Et je parle pour moi en premier, qu'Allah me pardonne. Je suis certainement le plus fautif parmi tous ceux qui parlent, parmi tous ceux qui sont là, mais Allah nous a donné ce amana de transmettre le message. Celui qui parle n'est pas mieux que celui qui écoute. Qu'Allah nous pardonne tous notre tawfiq d'avancer, de comprendre son dîn. Donc un musulman, il fait sa salat, il le fait alhamdulillah 5 fois par jour, il va se prosterner, c'est-à-dire le faraz a été accompli, l'obligation a été accomplie. Tout comme dans le mois de Ramadan, quelqu'un il jeûne ses 30 jours ou ses 29 jours, l'obligation a été accomplie. Il n'est pas pécheur pour avoir délaissé ses bonnes actions. Mais si avec ça il n'a pas compris que ce sont là des moyens qu'Allah nous donne pour nous rapprocher de lui, si la notion de se rapprocher d'Allah n'existe pas, ça veut bien dire que notre vie spirituelle se résume à une succession d'actes dont on ne comprend même pas l'essence. C'est-à-dire on ne comprend pas le but, la philosophie, la hikmah, la sagesse qu'il y a dans chacune de ces actions. Pour ça, mes chers frères, on a besoin de connaître notre dîn. On a besoin de lire des hadiths, de lire les tafsirs du Coran. Un musulman qui se ferme au Coran et aux paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui ne comprendra jamais sa religion. Une personne qui se contente que de ses 5 salats, de ses arcanes, mais qui se ferme complètement, il ne comprendra pas sa religion. Certes, celui qui fait ses 5 piliers, Inch'Allah, il accède au paradis. Je ne dis pas le contraire. Mais la proximité avec Allah, ça c'est un principe que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, avaient compris. Que aucun jour ne doit se ressembler. Je ne peux pas me permettre, cette année 2012, on est en 2012, de faire les mêmes quotas, les mêmes quantités d'actions que 2011. C'est-à-dire que dans la vie, d'année, de mois en mois, d'année en année, pour ne pas dire de jour en jour, le musulman doit progresser dans son dîn. Si je lui demande comment progresser dans le dîn, il y a quoi? Au lieu de faire 5 salats, je fais 7, je fais 8. Au lieu de faire, comment progresser? Est-ce que c'est uniquement, au lieu de lire un juz ou un séparant, on lit 2? C'est pas uniquement ça. Progresser, c'est se rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal. Que la salade que j'ai fait hier doit Elle doit être différente de la salade que je fais aujourd'hui. Que j'arrive à me concentrer de plus en plus. J'arrive à m'imaginer, à me persuader que quand je fais Allahu Akbar, Allah est en train, je ne dis pas de me regarder, Allah est en train de m'observer. Même si au même moment, 20h, dans toutes les mosquées de La Réunion, on va dire, il y a au total 12 000 personnes qui font la salat. Dans toutes les mosquées de l'océan Indien, dans le monde entier, il y a des gens qui sont en train de 3, 4, 5, 10 millions de personnes qui font Allahu Akbar en même temps. Allah observe chacun d'entre nous. Et Allah observe ce qu'il y a dans le cœur de chacune de ces personnes. Et Allah rétribue chaque personne pour ses actions en fonction de sa dévotion, en fonction de sa concentration. Deux personnes qui font la salat côte à côte, il y a une personne qui est concentrée. Cette personne, son cœur est rempli de sincérité, de dévotion. La personne, elle est en position de ruku, elle se relève, elle attend avec impatience d'aller dans le sijda. Ça existe ça? Oui, ça doit exister. Quelqu'un qui est pressé d'aller dans le sijda parce qu'il sait que quand je suis en prosternation, c'est le moment où je suis le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Je suis devant mon Seigneur, je suis devant mon Créateur, je suis devant mon Ilah, celui qui m'a donné la foi, qui m'a donné la santé, qui me donne la vie, qui me donne la mort, celui qui m'accorde des bienfaits, celui qui, le seul qui prendra des décisions me concernant quand je ferme les yeux. Aujourd'hui, quand j'ai un problème, j'ai des dettes, ou alors, je ne sais pas, j'ai un problème, il n'y a personne pour garder mes enfants, des trucs bêtes, j'ai besoin d'aller à tel endroit, je peux téléphoner à un camarade, un frère, un cousin, un tonton, etc. etc. Dans le dunya, il y a des gens qui vous aident. Même si on a de gros problèmes, il y a des âmes généreuses qui sont parfois là pour vous aider, pour vous donner des prix financiers. Il y a, alhamdoulilah. Mais quand on ferme les yeux, mes chers frères, quand on meurt, quand on quitte le monde du réel, quand on passe dans le monde du raïb, de l'invisible, il n'y a plus de maire, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de président, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de calife, il n'y a plus de souverain, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de femme, de mari, d'enfant, il n'y a plus rien. Il y a moi, mes actions, et devant, au-dessus de moi, il y a qui ? Allah Azza wa Jal. Et ça commence dès le moment où l'ange de la mort vient prendre notre âme. Je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi de m'énerver, je n'arrive pas à comprendre comment on fait autant de rappels. On trouve encore des jeunes, excusez-moi, j'accuse pas les jeunes, mais comment un musulman, il peut acheter un billet et aller écouter un concert? Ça c'est incroyable ça, ça c'est inconcevable. Cet tabi'in disait que si à notre époque, à leur époque, des sahaba revenaient, ils auraient cru que ces gens, ils auraient eu des doutes, est-ce que ces gens-là sont musulmans, oui ou non. Tabi'in, génération qui va juste après les sahaba. Que dit de notre pratique du din? La ilaha illallah. Comment un musulman peut délibérément programmer une désobéissance envers Allah Azza wa Jal? Comment puis-je penser aujourd'hui, mardi, que samedi, je vois tel camarade en sortant de la masjid après Maghrib, on fait notre programme pour aller en boîte samedi après Isha? Quel iman, quelle crainte d'Allah, quel amour pour Allah, où est notre foi de musulman? Comment un père de famille, une maman, peut laisser ses enfants, ses enfants adolescents, sortir et revenir à 5 heures du matin? Ça, on l'a déjà dit à Montreuil, on le répète. Comment une fille musulmane, peut-elle quitter son domicile samedi soir et rentrer pour Fajr? Et que les parents sont peut-être religieux, ils ne se posent pas de questions. Où est-ce qu'elle a été ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel chemin elle est partie? Où est notre rira? Où est notre amour propre pour femmes, enfants, pour nos proches? Où est notre sens de responsabilité quand Allah Azza wa Jal, quand le prophète dit kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati, vous êtes tous des bergers et chaque berger sera questionné à propos de son troupeau. Il y a des gens qui disent que non, il ne faut pas être dur, il ne faut pas dire des paroles dures, mais si on laisse aller, si on persuade les gens de leur erreur, on fait croire aux gens que non, c'est bien, tu as cotisé, tu as donné l'argent à la mosquée, tu viens à la masjid, ouais, un petit peu la barbe, il pousse, ça va, ne t'inquiète pas, Allah est clément, miséricordieux. Alors qu'on est dans le faux, on est dans l'erreur, notre première responsabilité, et je m'avance un peu en disant ça, je préfère qu'un papa reste chez lui, il fait la salat Isha chez lui, avec sa femme et ses enfants, mais que cela lui garantit que sa famille va faire leur salat avant de dormir, plutôt qu'il vienne et qu'il soit premier saf, il reste jusqu'à très tard, même écouter un programme comme on est en train de le faire, mais que de sa maison, son épouse est devant la télé, et ses enfants devant la télé, devant MSN, devant toutes sortes de loisirs, et qu'ils vont dormir sans faire leur salat. La première responsabilité, wa'amur ahlaka bis salat. Or, que la personne elle-même, elle est consciente de faire la salat, mais qu'elle se sente responsable de sa famille. Le sens de responsabilité de din, notre responsabilité devant Allah dans la pratique de la religion, on l'a bradée. On l'a bradé, on a adopté d'autres coutumes, d'autres idéologies qui veulent que les gens sont libres. Oui, on est libre. Il n'y a rien à dire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'oblige personne, on n'oblige la ikraha fid din. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aussi, Allah ne donne jamais quelque chose qui n'est pas possible, que quelqu'un ne peut pas réaliser, mais également la ikraha fid din, il n'y a aucune obligation. Quelqu'un, on ne va pas l'obliger à suivre la religion s'il ne veut pas suivre, s'il veut suivre autre chose, mais quand on est responsable, on est tuteur, on est papa, on est tonton, on a des enfants, c'est notre devoir, ça doit être notre souci principal. Ça doit être, pour ne pas dire notre obsession, ça doit être le but de notre vie, que j'adore Allah, je fais en sorte que ma femme adore Allah, que mes enfants adorent Allah. Et parfois il y a des parents qui se disent que banal encore petit, laisse les autres, n'est pas grave, pas excès d'affection de muhabba. Ce n'est pas, c'est une affection qui est mal placée. Quoi arriver, Saleh? Ça va? Un papillon. Subhanallah, regarde le degré de iman. Un papillon, il a fait Fisha Biao. Mais quand Dajjal va venir à moi, mon ami, il y a cher. Quand Dajjal va venir avec ses miracles, il y a cher. Ça va, le papillon est parti. Sans aller, on retrouve ses esprits. Mais je vous ai fait perdre le fil aussi. Qu'est-ce qu'on disait?
Responsabilité.
Bon, on parlait de responsabilité. Voilà, un papa qui se dit que non, mon enfant, non, petit, fais pas la valise à Dajjal. Laisse aller dormir, c'est pas grave. Subhanallah. On a l'impression qu'on est en train de le protéger, de l'aider. C'est comme si qu'on manifeste de l'amour. Mais le jour des comptes, quand cet enfant viendra voir Allah Azza wa Jalla, dira que mon père ne m'a jamais enseigné la salat. Et que nous, on croit avec notre grand bain, avec notre grande kafni, on va entrer dans le paradis facilement, alors que le mas'ouliya, la responsabilité première qui était d'amener notre famille avec nous dans le Bicentra, on ne l'a pas fait. Il y a des priorités, mes chers frères. Il y a des priorités dans la religion. Et il y a des réalités à comprendre. Le tout, c'est pas de faire beaucoup d'ibad. Une fois, le Prophète sallam avait parlé aux Sahaba et Abu Bakr était présent. Le Prophète sallam avait dit que Abu Bakr ne vous a pas dépassé bi kathratil a'mal. C'est pas qu'il a fait beaucoup d'actions. Lakin shay waqara fi qalbi. Mais il y avait quelque chose dans son cœur. Et dans son cœur, il y avait quoi? Une sincérité extraordinaire. Un amour pour Allah exceptionnel. Un amour pour le prophète alayhi salatu wasalam qui était sans limite. C'était des cœurs qui brûlaient d'amour pour Allah et le prophète. Même si peut-être Abu Bakr ne faisait pas autant de ibadah que peut-être d'autres sahabas. Nous, on essaie d'amener la quantité. Mais c'est la qualité des ibadahs qu'on doit chercher. J'ai pas les textes, que c'est pas le sujet du jour. Une fois, on avait parlé, je sais pas dans quel cas de thèse qu'il y a, sur le khushu', la dévotion dans la salat. C'est un tabi'in disait que je préfère accomplir 2 rakats de qiyamul layl, 2 rakats de tahajjud, mais avec sincérité. En intégrant avec conviction que je suis devant mon Seigneur, devant mon Créateur. Quand je fais mes sijda, je m'applique. Quand je dis Subhana, toute pureté revient à Rabbi, mon Seigneur Al-A'la, le plus haut, le plus grand, le magnifique. Quand je le dis, je le pense. Quand je dis Subhana, toute pureté à Rabbi, mon Seigneur Al-Azim, le majestueux. Quand je lis Al-Fatiha, je médite sur chaque mot, chaque parole. Quand je lis Qul Huwallahu Ahad, je médite sur chaque parole. Je ressens la grandeur d'Allah dans chaque parole qui sort de ma bouche. Je préfère, ce tabi'in dit, je préfère ces 2 rakats-là qu'une nuit entière passée de le Qiyam al-Layl, qu'on enchaîne les rakats avec fatigue, sans dévotion, sans concentration. On a besoin de travailler la qualité de nos bonnes actions. Et Abou Bakr al-Siddiq, ce n'est pas pour rien si le jour de la résurrection, toutes les portes du paradis vont appeler Abou Bakr al-Siddiq. Le prophète dit qu'il y a des gens qui vont entrer dans le paradis par la porte de la sadaqa, d'autres par la porte du saoum, etc. En fonction des actions que le musulman accomplissait le plus de ce dunya, il accédera par cette porte spécifique du paradis. Le prophète dit, sauf toi Abou Bakr. En ce sens, tu fais partie des gens qui seront appelés par toutes les portes du paradis. Voudront le jour de la résurrection avoir cet honneur d'accueillir Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et Abu Bakr al-Siddiq, c'était un homme faible, il était maigre. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il mettait ses vêtements, ses vêtements descendaient au-dessous de ses chevilles. Contrairement à ce que le prophète m'a demandé, Abu Bakr dit au prophète d'Allah, est-ce que moi aussi je vais être puni par Allah? Dit Abu Bakr, non, toi tes vêtements descendent. À l'époque c'était pas des pantalons, c'était des izars, comme on appelle ici des longis, d'accord? Il dit, toi tu es tellement maigre qu'il n'y a rien qui tient sur ta taille. Pourtant c'était un homme qui était riche. Abu Bakr faisait partie des riches de Mecca, mais il a tout donné fi sabilillah. Il a tout donné pour Allah. Et c'est là qu'on voit la différence entre ces sahaba et nous. quand le prophète Sam sollicite les musulmans, bataille de Tabouk, qui est prêt à aider les musulmans partis à un endroit qui est loin, très loin de Médine, très difficile. Abou Bakr, il vient et dit, je donne tout. Par exemple, il dit, Abou Bakr, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? J'ai laissé Allah et son prophète. Ça, c'est un degré de iman. Pour nous, c'est inaccessible. Quelqu'un qui est prêt à tout donner pour la cause d'Allah, avec sincérité. Ça veut dire qu'ils ont compris. Ça veut dire quoi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Je appartiens, j'appartiens à Allah Azza wa Jal. Le but de mon existence, c'est que chaque seconde que je passe, Allah est content de moi. Et ma fierté, mon contentement, c'est quoi? C'est quand l'ange de la mort vient reprendre mon âme, il me dit qu'Allah est content de toi. Je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala te transmet ses salams et qu'Allah est satisfait de toi. Comme les versets du Coran le prouvent, quand les gens pieux meurent, comment les anges annoncent la bonne nouvelle? Et quand la personne est dans la tombe, comment ses actions viennent auprès de lui? Quand la personne est ressuscitée avec les Anbiya, avec les Siddiqin, Shuhada et les Salihin, avec les Sahaba, et recevoir comment son livret de compte, comment il passe sur le Sirat, comment il accède au paradis avec grande facilité. Ça, c'est le but du musulman. Le but de notre vie, ce n'est pas de cumuler des diplômes, d'avoir un travail qui va nous faire gagner beaucoup d'argent, d'avoir la plus jolie femme du monde, d'avoir la plus belle des maisons. Tout ça, c'est zinatul hayati dunya. Tout ça, c'est les trucs apparents de ce monde. Des choses qui ne sont pas interdites, oui. On n'a jamais dit que c'était interdit. Mais ces choses-là ne doivent pas devenir nos priorités, ne doivent pas devenir nos objectifs, et ces choses-là ne doivent pas prendre le dessus de nos cœurs sur l'amour d'Allah et l'amour pour son prophète, alayhi afdalus salat wa atammut taslim. Regardez les khawarij. Le prophète avait dit que viendra une époque où il y aura des gens qui vont faire telle erreur. C'est les gens qui ont assassiné Uthman ibn Affan. Le prophète du Sahaba dit, si vous comparez, il dit, ces gens-là, vous les voyez, ils ont des traces de prosternation sur leur front. Comme il dit ici, la réunion de Tashnamaz. Des signes de prosternation extraordinaires. Si vous comparez vos actions à leurs actions, c'est incomparable. Si on pesait vos actions à leurs actions pèseraient beaucoup plus lourd. Et le prophète parle à qui là? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. À des sahaba, c'est-à-dire l'action de ces gens-là dépasse les actions des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in en quantité kathra, mais pas en qualité. Juhal, des gens qui faisaient de bonnes actions, mais des gens profondément ignorants, qui n'avaient rien compris au dîn d'Allah Azza wa Jal, qui n'avaient rien compris aux priorités qu'Allah a fixées en termes de respect aux ordres d'Allah, au respect du amir, des règles qu'Allah a prescrites. Mes chers frères, il ne faut jamais se dire que je suis sauvé. Il ne faut jamais se dire que moi, je suis dans le bon wagon, c'est sûr que je vais aboutir. Non, mes chers frères, nous devons en permanence nous remettre en question. Parce que le musulman qui ne se remet pas en question, il ne va pas essayer d'avancer. Et celui qui n'avance pas recule. L'imam cha amin kuma in yataqaddam aw yata'akhkhar. L'imam fasrin dit, faman lam yataqaddam faqad ta'akhkhar. Celui qui n'avance pas, il recule. On ne fait pas de surplace dans la religion. Parce que l'iman yazid wa yanqus. La foi ne reste jamais stable. Ce n'est pas comme la température du corps humain qui est à 37, 37,2. Le iman, soit il augmente, soit il diminue. Vous faites des bonnes actions, il augmente. Vous faites des péchés, il diminue. Le iman ne reste pas stable. Nous devons nous faire, pour terminer cette petite introduction, du souci pour notre dîn. Et ça remplace tous les bayans, tous les discours, toutes les conférences. Tout ça, le but, c'est de rappeler aux musulmans que j'ai été créé pour Allah, que chaque seconde de ma vie, je passe de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et je dois faire en sorte qu'à aucun moment de ma vie, je fais des péchés volontairement. Quand je le fais par inadvertance, sans le moindre doute qu'Allah est Ghafour Rahim et qu'Allah va me pardonner. Mais si vraiment j'ai exagéré, j'ai fait une erreur, je dois immédiatement me retourner vers Allah, demander pardon à Allah Azza wa Jal. C'est comme on a dit tout à l'heure, quand on meurt, quand on rentre dans la tombe, on n'a plus de papa, on n'a plus de maman, on n'a plus de famille, on n'a plus de patron, on n'a plus personne. C'est Allah qui prend les décisions. Quand on est devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui décide, est-ce que mon livret de compte, il me le donne de la main droite ou de la main gauche derrière mon dos. Allah seul décide comment, à quelle vitesse je passe sur le sirat, ce pont qui est suspendu sur le Jahannam. Il y en a qui passent à la vitesse de l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un cheval au galop, d'autres comme un oiseau, d'autres comme etc. D'autres qui rampent et qui tombent dans le Jahannam. C'est Allah qui prend la décision. Ça, c'est notre relation que nous devons avoir avec Allah. Le jour de la résurrection, c'est uniquement Allah qui prend les décisions. C'est Allah, nous devons lui donner son droit, subhanallah, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hada. On ne va pas faire long, sachant qu'il y avait ce soir un Salatul Janaza à Saint-Pierre, hein, et on aurait, wallahi, j'aurais vraiment souhaité y aller. Mais comme on avait annoncé à l'avance qu'on va faire le programme, on avait diffusé un petit peu, on ne peut pas se permettre de donner parole, de ne pas tenir la parole. Ce qui me, hein, on retiendra le son à partir, on n'annonce pas à l'avance, au moins s'il y a quelque chose, on peut déprogrammer, et on ne s'est pas engagé sur quoi que ce soit. Et malheureusement, les personnes qui sont habituées de venir, apparemment, regardez, la masjid est presque vide, la plupart des gens sont partis en Salatul Janaza, nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accorder les plus hauts degrés du paradis à cette dame qui nous a quittés. Elle avait quel âge? Elle avait 87 ans. Hein, 87, c'est les doyens, ça fait partie des doyens de la communauté. Hein, c'est les premières générations à peu près de musulmans qui se sont installés ici. Parmi les premiers, subhanallah, c'est des gens, ça c'est les pionniers. Ce sont les pionniers, ce sont les gens qui sont... Si on a, bi'idhnillah, aujourd'hui autant d'infrastructures, c'est l'effort de ces premières générations qu'Allah Ta'ala leur accorde. La plus grande récompense, que leur tombe soit des jardins du paradis et qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde les plus hauts degrés et qu'une porte du paradis soit ouverte à la tombe de cette personne à travers laquelle la personne va sentir l'odeur, le parfum du paradis et elle va voir avec contentement et joie quelle sera sa future place dans le Jannah. Allahumma amin. Et qu'Allah accorde sa récompense à toutes les personnes qui sont défunts qui avaient la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur. Alors mes chers frères, on va être donc rapide pour ne pas pénaliser ceux qui n'étaient pas là. Ce qu'on avait vu il y a 2 ou 3 semaines brièvement, c'était l'histoire de ce jeune homme qui va sortir de Médine, de Madina Munawara, qui va affronter Dajjal. Et on avait donné comme titre à cette intervention le premier échec de Dajjal. Pour qu'on comprenne bien que Dajjal a des limites. Allah Azza wa Jalla lui a accordé des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs extraordinaires qu'aucun être humain n'a eu. Je ne parle pas de mu'ajiza. Je parle des khawariq al-adad, des miracles qu'un être humain accomplit pour détourner les gens du droit chemin, ce que certains appellent dans un langage un peu plus technique des istikhraj. C'est l'homme qui a le plus de pouvoir, qui a eu le plus de pouvoir de la part d'Allah Azza wa Jal, ressusciter des morts, faire pousser des plantes, claquer des doigts et la pluie tombe, et ressusciter des bêtes qui sont mortes à des périodes de disette, de famine, où les gens meurent de faim. Et quelqu'un claque des doigts, vous devenez riche, vous avez à manger, vous donnez à manger à vos enfants. Vous voyez vos enfants en train de mourir de faim. Cet homme vous dit que si tu crois en moi, tu vas voir tellement de bienfaits de tes biens. Un papa qui voit son fils, sa fille mourir et qui voit un homme qui lui propose nourriture, argent, à profusion, en quantité, c'est extrêmement difficile. Très peu de gens vont pouvoir s'échapper des pièges de Dajjal. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, c'est des pouvoirs qu'Allah lui a accordés, mais ces pouvoirs-là ne sont pas éternels. C'est pas durant tout son séjour sur ce dunya qu'il a ses pouvoirs. Ces pouvoirs-là, Allah Ta'ala lui a accordé pour la première partie de son séjour sur la terre. Séjour qui va durer, Salih, on avait dit combien de temps? Dajjal va rester combien de temps sur la terre? 40 jours. Et la première année sera comme? La première année comme un an. Le premier jour, Yawmun Kasana, premier jour comme un an, wa Yawmun Kashar, le deuxième jour comme un mois, wa Yawmun Kajuma, le troisième jour comme une semaine, wa Sa'iru Ayyamihi, et le reste des jours comme des jours tout à fait normaux. D'accord? Durant une première partie de sa prêche, de sa mission, parce que c'est là, ça c'est une mission. C'est pas un travail de shaitan, ça Dajjal. C'est une mission qu'Allah Ta'ala lui a accordée pour tester la foi des gens à la fin des temps et pour montrer aux gens que l'humanité est terminée. Allah a créé les êtres humains, les djinns pour faire son adoration pour un laps de temps, mais à un moment donné, Allah ordonne que tout ça se termine, que le cycle de la vie s'éteigne et qu'il ne reste plus rien. L'imanil mulkul yaoum. Le jour de la résurrection, lorsqu'Allah Ta'ala fait ce i'lan, à qui appartient la royauté, il n'y a plus personne pour répondre. Il n'y a même plus l'ange Gabriel, Jibril, il n'y a même plus les anges, qui portent l'arche d'Allah, excusez-moi, les hamalatul arch. Même eux, ils meurent. Quand le souffle est donné dans la corne de Israfil, il n'y a plus aucune trace de vie. Même les anges meurent. Même les anges qui portent le trône d'Allah, eux aussi, ils meurent. Ce qui montre qu'Allah, il est as-samad. Il n'a pas besoin de ces anges-là non plus. Allah les a créés parce qu'il veut qu'il y ait une organisation de la création, un système, en guillemets, d'une manière respectueuse, un roulement. Mais Allah n'a besoin de personne. Allah, il est le plus grand. Allah, il est autonome. Allah, il est... Et que Allah lui a accordé... Oui, excusez-moi, c'était une mission On était arrivé au trône d'Allah tellement monté que pour subhanallah. Si on devait parler du trône d'Allah, mes chers frères, Allah, on a vu des hadiths dernièrement à Montreuil sur la grandeur, la beauté du trône d'Allah, sur ses anges. Pour ça, on s'est bloqué dessus, sur les anges qui portent le trône d'Allah. Mais si je commence à parler de ça, on finira pas. C'est extraordinaire. Ça nous montre comment on est petit, on est infiniment petit, on est rien, rien, rien du tout. Si c'était pas la clémence d'Allah, Allah, il a tellement pitié de nous que des êtres impurs qui font des péchés matin et soir, Allah est capable de pardonner pour nous faire accéder au paradis qu'il a créé de ses propres mains. Alors qu'Allah Ta'ala a des anges qui, depuis le début de la création, ils sont en prosternation jusqu'à la fin des temps. Et lorsque le qiyama commence, ces anges se relèvent et ils disent: oh Allah, ma abidnaka haqqa ibadatik. Nous ne t'avons pas adoré, oh Allah, comme on devait le faire, comme tu le méritais. Ça, c'est les anges. Ça, c'est ceux qui adorent Allah tout le temps. Mais Allah Ta'ala a pitié de nous. Allah veut nous éprouver. Et c'est ça le mot-clé, épreuve. Dajjal est une épreuve. Allah veut éprouver les gens par cet homme et montrer par ses signes que maintenant c'est fini. Le cycle de la vie, qu'on a dit, voilà, on retrouve le fil, le cycle de la vie est terminé. Maintenant, Allah Ta'ala enlève toute forme de vie. Et pendant quelques temps, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. C'est comme au début où il n'y avait que Allah. Mustawa ala al-arsh. Wa kana arshuhu ala al. Et le trône d'Allah était sur l'eau. Et ensuite Allah Ta'ala va ordonner à Israfil de souffler encore dans la corne, pour ne pas dire trompette, c'est mal traduit. Et puis peu à peu, il y a des anges qui reviennent à la vie, il y a différentes créatures, etc. Et parmi les êtres humains, parmi les premiers, Moussa alayhi salam, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un entre les deux, hein, le hadith prophète dit lui-même, il ne sait pas, quand il va voir, il se réveille, il verra Moussa alayhi salam près du trône d'Allah. Et puis peu à peu, les gens se voient ressusciter. Dajjal, il est là pour marquer la fin de la vie, que c'est parmi les premiers grands signes de Qiyamah qui ont pour but de clore le cycle de la vie depuis qu'Allah Ta'ala l'a créé, depuis le début de la création. Et donc, ce pouvoir qu'Allah lui a accordé, c'est pour une période de sa mission, la période où il va, en guillemets, recruter. Il va faire, hein, on parle, c'est peut-être pas la bonne période pour utiliser ces termes, où Dajjal va faire campagne pour avoir le maximum de personnes qui vont l'aider. Et comment est-ce qu'il va faire campagne? Pas par des promesses. Il va faire campagne par des miracles. Et à un moment donné, Allah décide que maintenant c'est fini les miracles, Allah reprend, il ne peut plus rien faire. Et la plus grande preuve que Dajjal, subhanallah, il n'est qu'un être humain, il n'est qu'un makhlouk, il a des défauts physiques que lui-même ne peut pas enlever. Il peut ressusciter un mort, mais il ne peut pas redresser son yeux les tordes. Il peut ressusciter un mort, mais il ne peut pas passer blanco sur son front en face effacé avec du white spirit ou autre chose, ce qui est écrit kafa'ira kafir sur son front. Preuve de la faiblesse de cet homme qui reste un être humain. Et donc, dans la deuxième phase de la mission de Dajjal, c'est les phases de guerre. N'aime pas entendre ça, dire attention, djihadiste. Non, c'est lui qui tape à nous. C'est pas nous, il s'est ennuyé à lui. C'est Dajjal qui monte des armées avec ses alliés pour aller combattre tout le monde. Et dans cette phase-là, Dajjal redevient un homme comme tout le monde. Mais son yeux reste orne, kafir reste écrit sur son front certainement, mais il ne peut plus faire de miracles. Autrement, quand il y a une armée en face de lui, il dit: bon, je vous ordonne tous de mourir. Non, ce n'est plus le cas. Quand il aura tué ce jeune homme, Allah Ta'ala reprend le pouvoir. Et ce jeune homme-là, camarade papillon, ce jeune homme-là, il sera tellement fier. Imaginez, moi je dis: oh Allah, Allah maj'alni hadha ar-rajul. Que ce soit moi cette personne. Chacun doit avoir ce désir intérieur, brûler, cette foi qui brûle pour être cette personne qui aura cet honneur d'être tranché en deux par Dajjal. Mais c'est une souffrance. Tout d'abord, l'armée de Dajjal va frapper, va torturer cet homme, et Dajjal, de sa propre main, va le couper, le scier en deux, marcher entre les deux parties de son corps pour montrer qu'il est réellement mort. Et puis Dajjal dit: je t'ordonne de retrouver la vie, pour montrer aux gens que c'est lui Dieu. Et lorsqu'il retrouvera la vie, il va dire: alors jeune homme, maintenant tu reconnais que je suis ton créateur. Il va dire que wallahi, j'ai encore plus de yaqin, de conviction que c'est toi Dajjal. Car le prophète nous avait annoncé qu'un homme fera ce miracle à la fin des temps. Et j'atteste que c'est toi Dajjal. Et là, il va essayer de retuer la personne, mais il ne pourra plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre phase, une autre étape, quand Allah reprend ce pouvoir. Et Dajjal devient un simple chef d'armée qui ne peut plus accomplir de miracles, ne peut plus faire tomber la pluie, ne peut plus ressusciter personne, ne peut plus redonner vie, ne peut plus guérir les gens qui étaient malades. Et là, on passe dans l'autre phase, c'est la phase de guerre, et c'est les affrontements avec Dajjal, deux étapes. quand Imam Mehdi, ça on verra par la suite, autour de la de Beit al-Maqdis, de la mosquée Al-Aqsa, et puis l'affrontement, la deuxième guerre, vraiment, on pourrait dire, deuxième affrontement, c'est un duel personnel contre qui? Contre Hazrat Isa alayhi salam, qui reviendra, et il ne fera pas long feu Dajjal. Il ne fera pas long feu. Et là aussi, regardez, on verra, subhanallah, comment Allah ta'ala maîtrise tout ça dans les mains d'Allah. Que quand Imam Mehdi voit Dajjal, Dajjal fond, comme le sel dans il se dissout. Mais Allah ne veut pas que Dajjal meure de la sorte. Allah veut que Isa alayhi salam revienne, le Messie revienne pour tuer Dajjal de ses propres mains, pour que les gens voient le sang couler du corps de cet homme, pour voir que ce n'était pas un dieu, mais ce n'était qu'un homme. Donc pour revenir au fil de l'histoire, cet homme, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, va défier Dajjal, et après cette étape, Dajjal n'a plus ce pouvoir. Maintenant Dajjal, il est quoi? Il est chef d'une armée. Et Dajjal se déplace avec son armée après qu'il ait fait tout le circuit qu'on a expliqué depuis, qu'il passe par différents pays, et par rapport au, hein, on a vu en géographie, des zones proches de l'Afghanistan, des zones proches de l'Irak, proches de l'Iran, proches de ces régions, d'accord? Jusqu'à arriver vers, c'est quoi son objectif? C'est d'aller vers Al-Hijaz, vers Madina. Et à ces endroits-là, pas de quartier. Cette ville de Madina Munawwara, qu'on appelle, ou Madina Nabawiya, elle est tellement aimée par Allah Azza wa Jal que Dajjal ne peut ni approcher, ni la peur, ni la crainte de Dajjal ne peut pénétrer le cœur des gens qui habitent dans cette ville. Le cœur des gens purs qui habitent dans cette ville, ils n'auront pas un pourcentage de crainte de Dajjal. Parce que l'environnement de Madina Munawwara et de Makkah, ces environnements-là sont protégés par Allah. Allah y a mis des malaïka, des anges qui sont là. Nous ne les voyons pas. Mais ces anges-là sont présents pour protéger ces lieux saints contre Dajjal en personne, mais également pour protéger la population contre la crainte de cet homme. C'est-à-dire le cœur des Ahlé Makkah et de Ahlé Madina, leurs cœurs resteront toujours apaisés, tranquilles. Jamais ils ne ressentiront le stress, l'angoisse face à Al-Masih, à Dajjal. Et donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, nous explique. On va pas être très long, on va citer juste quelques hadiths. Fa'akhruju, Dajjal explique, il dit fa'akhruju, fa'asiru fil ardi. Allah Ta'ala me donnera la possibilité maintenant de circuler dans différents endroits. On a vu que Dajjal va parcourir le monde entier. On avait expliqué ça la dernière fois. Pendant ces 40 jours, il visitera tous les pays du monde, toutes les zones, tous les continents, chaque village où il y a des gens qui habitent, il ira. À l'exception des deux terres saintes, d'accord? Je vais partir donc, je vais voyager dans toutes les régions. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 layla, je ne vais laisser aucun village sans y mettre les pieds dans l'espace de 40 nuits, ghayr Makkah wa Tayyiba, à l'exception de Makkah et de Tayyiba. Et Tayyiba c'est un des noms de Al-Madina. Fahuma muharramatan 'alayya kiltahuma. Ces deux endroits-là sont haram pour moi. Allah les a rendus haram, sacrés et interdits pour moi. كلما اردت ان ادخل واحده منهما, à chaque fois que je vais essayer d'approcher une de ces deux villes, istaqbalani malak biyadihi sayf, un ange va me réceptionner, va faire face avec une épée dans la main, yasudduni anha, il me chasse de ces zones, de ces régions. Wa inna ala kulli naqabin minha malaikatun yahrusunha, et dans chaque endroit tout autour de toutes les tout le périmètre autour de ces deux villes saintes, il y a donc des malaïka, il y a donc des anges qui protègent ses habitants et qui protègent ces deux villes saintes contre moi, contre Ad-Dajjal. Et on irait même plus loin dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment Allah azza wa jal a protégé Madina. Hadith de Ibn Majah dit que lam ada, le hadith est long, il n'y a pas un endroit où je ne veux pas m'y rendre, c'est à peu près les mêmes textes, mais parfois dans différents hadiths, on a des détails qu'on ne retrouve pas. Ma fiha tariq, il n'y a pas une route, il n'y a pas un chemin, dayiqun wala wasi', que ce soit une rue, une grande route ou un petit sentier, wala sahl wala jabal, ni une plaine ni une montagne, illa wa alayhi malakun shahirun zayfu ila yawm al-qiyamah, sans qu'il n'y ait, on parle de Madina Munawwara, sans qu'il n'y ait un ange, n'importe quelle route de Madina Munawwara, il y a des malaïka qui sont là, qui attendent jusqu'au ila yawm al-qiyamah, jusqu'au qiyamah, ils attendent quand est-ce que Dajjal va venir. Ils sont là, ce sont les gardiens des deux villes saintes, les gardiens de Mecca et les gardiens de Madina. Et comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement Dajjal qui ne pourra pas accéder aux villes saintes, c'est même l'angoisse, la peur de Dajjal. C'est-à-dire même les cœurs des Ahlé Mecca et Madina ont été protégés par Allah. Et si on peut faire une parallèle avec, regardez quand Allah dit « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ » C'est-à-dire que celui, en parlant de Mecca, celui qui a l'intention d'y aller pour faire quelque chose de mauvais, Allah Ta'ala le punit déjà. Uniquement par l'intention. C'est une des seules choses où avec l'intention, on reçoit la punition. Tellement Allah Ta'ala protège Mecca et également Allah Ta'ala protège Al-Madina, le verset concerne Mecca. Il dit que, le hadith dit, وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَّا يَبْلُغَهَا رُعْبُ الْمَسِيحِ. Ce hadith dit que, hadith de Moussa l'imam Ahmed, il n'y a pas un endroit où l'angoisse, la peur, la mauvaise nouvelle de la venue d'Ajjal n'entrera pas. Illa al-Madina, à l'exception de Madina. Et dans cette ville-là, l'angoisse, la peur, la crainte de Dajjal même ne pénétrera pas le cœur de ses habitants. Maintenant, on va continuer. Dajjal, lorsqu'il va se rendre près de Madina Munawwara, il va aller vers un endroit particulier. Je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui. On va juste terminer ce chapitre. La prochaine fois, on aura une carte, on va montrer exactement le tracé où Dajjal va se rendre. Donc, il va se rapprocher. Il va se rapprocher de Al-Madina. Il dit, il va descendre dans un endroit, Fayanzilu bis-Sabkha. Al-Sabkha, c'est une terre aride, une terre où rien ne pousse. C'est des endroits qui sont à l'extérieur du haram, à l'extérieur de la zone sacrée de Al-Madina Al-Munawwara. Il va venir vers ces endroits-là et ce sera à peu près ça, sa limite. Et c'est en restant cet endroit-là que les gens qui ont l'hypocrisie, les gens qui ont le nifar de leur cœur, là ils vont sortir de Madina pour rejoindre Dajjal. Et donc, ça on verra par la suite, Dajjal va juste s'approcher de Madina Munawwara vers cet endroit. Et comme on a dit la prochaine fois à travers une carte, on va montrer, on parle de certaines régions où il y a une terre de couleur rougeâtre, où on parle de Majma al-Suyul, on parle également de As-Sabra, on parle de etc. Il y a différents endroits et de nos jours, si un jour quelqu'un va en Umrah, il connaît un peu les gens de là-bas, les anciens, ceux qui ont la connaissance, ils peuvent vous dire exactement quel endroit Dajjal va camper avec son armée. Parce qu'ils connaissent les régions, parce que nous quand on parle de Sabra, on parle de Al-Jurf, on parle de Majma al-Suyul, on a un peu du mal, on a des cartes, mais on ne peut pas trop comprendre c'est quel endroit, mais les Ahl al-Madina, ils savent exactement à quoi correspondent ces zones depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les endroits qui restent encore de nos jours, ils savent que Dajjal, ça c'est son endroit, il va s'arrêter là, l'armée sera à cet endroit, ce sera là, la limite qu'Allah Ta'ala lui donnera la possibilité d'approcher donc de ces villes saintes. Et la limite, si on parle de la limite de Dajjal pour Madina, c'est la montagne de Uhud, mashallah, la montagne de Uhud. Dajjal va se rendre près de la montagne de Uhud et c'est à cet endroit-là que les anges vont l'empêcher d'aller plus loin. Le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يَدِيُ الدَّجَّالِ فَيَسْعُدُ أُحُدًا. Dajjal va venir près de Médine, de Madina Munawwara, et il va monter sur la montagne de Uhud. فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَضُ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدُ. Il va dire à son armée, voyez-vous ce palais magnifique, ce palais de couleur blanc, ça c'est le château de Mahomet, ça c'est le château de Muhammad. Allahumma salli ala nabina Muhammad. Et les ulama disent que c'est un, on avait dit ça l'autre fois, ça c'est déjà un mu'ajiza, un miracle de la part du Prophète sallam d'avoir annoncé que viendra une époque où sa mosquée sera tellement grande que à partir de la montagne de Uhud, les gens pourront voir sa mosquée. Alors qu'à l'époque où le Prophète prononce ses paroles, subhanallah, la Masjid Nabawi, le sol, c'est de la terre, et les poteaux c'est des dattiers et recouverts de feuilles de dattes, il n'y a rien d'autre. Quand la pluie tombe, l'eau rentre, ça fait de la boue par terre. Mais le Prophète annonce qu'à une époque la Masjid Nabawi sera gigantesque, Dajjal va l'admirer, va l'observer à partir de la montagne de Uhud. Et lorsqu'il sera posté sur la montagne de Uhud, qu'est-ce qui va se passer? Les fameux trois tremblements de terre. Les fameux trois tremblements de terre. Le prophète dit, ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَ رَجَفَاتِ. La terre de Médine va trembler trois fois. فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ. Et quand la terre va trembler trois fois, il n'y aura pas un hypocrite, homme ou femme, ou un pécheur endurci, Quelqu'un qui ne fait que suivre ses passions, quelqu'un qui vit dans le péché, que ce soit un homme ou une femme, qui pourra rester encore à Madina. Ces personnes-là seront, c'est pas qu'ils voudront partir, c'est Madina qui va les chasser. Al-Madina tutanfi khabathaha. Madina, elle a cette particularité de chasser, d'expulser les gens qui sont sales. Les gens qui ne sont pas propres, qui n'ont pas le cœur pur, à un moment donné, Madina les rejette, les recrache, on pourrait dire, hein, de manière un peu respectueuse, mais Madina rejette ces personnes. Et ces gens-là vont se retrouver avec Dajjal et malheureusement, ils vont faire partie des gens de l'armée, on pourra dire ça, des gens qui vont suivre Al-Masih, Al-Dajjal. Et ce jour-là, le Prophète a qualifié « Fadhalika yawmul khalas ». Al-Khalas, c'est le jour de la purification, c'est-à-dire où Madina va être purifié des munafiqs, des munafiqas, des fussars, des pécheurs endurcis et des gens qui ont là l'amour pour les péchés dans leur cœur. Hada. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on doit vraiment prendre conscience, mes chers frères, que cette ville de Madina, c'est une ville exceptionnelle. C'est une ville qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, le prophète alayhi salatu wa sallam avait annoncé que à la fin des temps, viendra une époque, c'est pas la fin des temps, c'est une époque proche des sahaba, qu'il y a des gens qui vont faire la da'wa, ils vont inviter les gens de Madina de quitter Médine, d'aller vers telle région où il y a plus de terre, il y a plus de troupeaux, il y a plus de baraka, et il y a des gens qui vont y aller pour rechercher les biens de ce monde. Alors qu'à Madina, la vie est dure, il y a pauvreté. Mais le prophète dit, « Wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. » Mais Madina était mieux pour eux si seulement ils savaient. Et le prophète me dit qu'il y aura une autre époque, et une autre époque, en deux ou trois fois, que les gens vont inciter les personnes de Madina Munawwara d'aller vers tel endroit, d'aller vers telle terre, telle région, où la vie est plus facile. Alors qu'à ce moment, la vie est très dure, très difficile à Madina, pauvreté. Mais le prophète me dit que si seulement ces gens savaient quelles étaient les vertus de cette ville, il aurait été mieux pour eux de rester à cet endroit. Et ce n'est pas pour rien, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui peut mourir à Madina, qu'il meure à Madina. Si quelqu'un a la possibilité d'aller, d'y aller, d'habiter et de mourir là-bas, ben que cette personne meure là-bas. Parce que celui qui meurt à Madina, qui est enterré de le Baqir, il a la garantie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah, va intercéder pour lui le jour des comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup de doigts pour cette ville et beaucoup de doigts pour les habitants de cette ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Mecca, il retrouvait les sahaba qui étaient extrêmement nostalgiques de Mecca. Il voulait retourner à Mecca. Le prophète a dit, oh Allah, mets de l'amour pour Madina dans nos cœurs comme tu as mis de l'amour pour Mecca dans nos cœurs avant. Et là, les sahaba, tellement ils ont commencé à aimer Madina que même après la conquête de Mecca, personne n'est retourné à habiter à Mecca al-Mukarrama. Vous savez que Mecca a eu le doua d'Ibrahim alayhi salam, le doua, la baraka. Qu'Allah met bénédiction de tout ce qui vient de Mecca. Il y a tellement de choses, subhanallah. Le prophète sallam, lui, a donné son doua à lui, à la ville de Madina. Il n'y a rien à dire. Le rang du prophète sallam est supérieur au rang d'Ibrahim alayhi salam. Donc son doua a plus de valeur que le doua d'Ibrahim alayhi salam. Il a dit, oh Allah, mets du'fay, le double de bénédiction dans Madina par rapport à ce que tu as donné à Mecca. Donc il y a deux fois plus de baraka dans cette ville de Madina Munawwara que à Mecca tul Mukarrama. Tellement cette ville elle est bénie que même ses fruits sont bénis. Celui qui mange sept ajwa ou sept dattes, dans certains hadiths on parle de sept dattes en général qui viennent de Madina, tous les matins cette personne est protégée contre quoi? Contre la sorcellerie. Également la terre de Madina, vous savez qu'il y a des endroits, il y a une terre, certains hadiths parlent d'un endroit spécifique, d'autres Mouhadithine sont d'avis que c'est toute la terre de Madina, n'importe quelle région, n'importe quel endroit de Madina, la terre elle est bénie. Il y a Shifa. C'est qu'il y a des gens qui souffrent de différents problèmes de santé, ils prennent la terre, ils posent comme, hein, sur eux, sur leur corps, et Allah Ta'ala guérit. Cette terre elle est bénie. C'est un endroit qui est béni par Allah. Le Prophète m'a promis que jamais la peste, At-Ta'un, n'entrera dans cette ville. Alors que quand il y a une épidémie de peste, ça peut. Ça n'existe plus de jour, Alhamdulillah, mais à l'époque, des villages entiers pouvaient mourir de peste, mais le Prophète dit que Madina non, alors que ce virus-là peut se transmettre facilement. Mais Mecca et Madina ont toujours été protégés de la peste par le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à, donc par le qudrat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce n'est pas pour rien si le plus grand fitna de tous les temps ne peut pas y accéder, parce que cette terre-là elle est aimée par Allah, aimée par son prophète et donc protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prochaine fois on va compléter, on va voir une petite carte et on va voir exactement quels sont, on ne va pas s'attarder sur ce sujet, mais quels sont les endroits où Dajjal va se rendre, à quel endroit il sera arrêté, chassé par les anges, et après quelle sera la suite de ça, la suite de sa mission. Et la suite de sa mission, comme on dit, ce seront les guerres contre les musulmans. Et ça nous amènera directement vers le dernier programme intermédiaire entre Dajjal et la venue de Isa alayhi salam. Parce que c'est Isa alayhi salam quand il va venir, qui va tuer Dajjal, il va le, entre guillemets, le piéger à Baitul Maqdis. Dajjal ne s'attendait pas à ce que Isa alayhi salam soit là, et c'est là qu'il va trouver la mort. Jazakum Allah khair. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum Allah khair.